bonjour. Je me réjouis de vous retrouver sur les ondes de Radio Salve Regina et de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ensemble le livre de Ruth. Il fait partie des livres appelés Megillot. Megillot, ce sont les cinq rouleaux, les cinq livres que les Juifs lisent en entier à la synagogue lors de certaines fêtes. Dans les Megillot, nous avons les Cantiques des Cantiques, Livre des Lamentations, l'Ecclésiaste, Livre d'Esther et les Livres de Ruth. Et les Juifs croient que ces cinq livres, lorsqu'on les lit, ils se réalisent. Ce sont des histoires toujours actuelles qui s'incarnent, ou ils veulent s'incarner plutôt, dans la vie de ceux qui les lisent et de ceux qui les écoutent. Les livres de Ruth, les Juifs lisent à la fête des semaines ou de la fête de Pentecôte, la fête des Juifs. Alors j'espère qu'en méditant aujourd'hui cette histoire de Ruth, cette parole de Dieu se réalisera aussi dans vos vies. Mais pour cela, ouvrons notre cœur à l'action de l'Esprit-Saint en nous. Laissons-nous guider par lui. Écoutons le début du livre de Ruth, le chapitre 1, les versets de 1 à 22.
Au temps où gouvernaient les juges, une famine survint dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda s'en alla avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans les champs de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie, et ses deux fils, Malon et Kilion. Ils étaient Éphratéens de Bethléem de Juda. Arrivés dans les champs de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et elle lui survécut avec ses deux fils. Ils prirent pour femmes des Moabites, l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Puis Malon et Kilion moururent, tous deux aussi. Et Noémie resta seule, privée de ses deux fils et de son mari. Alors, avec ses brus, elle se disposa à revenir des champs de Moab, car elle avait appris dans les champs de Moab que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. Elle quitta donc avec ses brus le lieu où elle avait demeuré, et elles se mirent en chemin pour retourner au pays de Juda. Noémie dit à ses deux brus, « Partez donc et retournez chacune à la maison de votre mère. Que Yahvé use de bienveillance envers vous, comme vous en avez usé envers ceux qui sont morts et envers moi-même. Que Yahvé accorde à chacune de vous de trouver une vie paisible dans la maison d'un mari. » Elle les embrassa, mais elles se mirent à crier et à pleurer, et elles dirent, « Non, nous reviendrons avec toi vers ton peuple. » « Retournez, mes filles, » répondit Noémie. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez-vous-en, car je suis bien trop vieille pour me marier. Et quand bien même je dirais, il y a encore pour moi de l'espoir, cette nuit même je vais appartenir à mon mari et j'aurai des fils. Attendriez-vous qu'il soit devenu grand? Renonceriez-vous à vous marier? Non, mes filles, je suis pleine d'amertume à votre sujet, car la main de Yahvé s'est levée contre moi. » Elles recommencèrent à crier et à pleurer. Puis Orpa embrassa sa belle-mère et retourna vers son peuple. Mais Ruth lui resta attachée. Noémie dit alors, « Vois, ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Retourne-toi aussi et suis-la. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de t'abandonner et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là je serai enseveli. Que Yahvé me fasse ce mal et qu'il y ajoute encore cet autre, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. » Voyant que Ruth s'obstinait à l'accompagner, Noémie cessa d'insister auprès d'elle. Elles s'en allèrent toutes deux et arrivèrent à Bethléem. Leur arrivée à Bethléem mit toute la ville en émoi. « Est-ce bien là Noémie ? » s'écriaient les femmes. « Ne m'appelez plus Noémie, » leur répondit-elle. « Appelez-moi Mara, car Shaddai m'a rempli d'amertume. Comblée, j'étais partie. Vide, Yahvé me ramène. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Noémie, alors que Yahvé a témoigné contre moi et que Shaddai m'a rendue malheureuse ?» C'est ainsi que Noémie revint, ayant avec elle sa belle-fille Ruth, la Moabite, celle qui était revenue des champs de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges.
Nous avons un beau couple, Elimelech et Noémie, qui habitent à Bethléem. Elimelech, son nom, veut dire « Dieu est mon roi ». C'est-à-dire, Elimelech, c'est un homme qui laisse Dieu gouverner dans son cœur et dans sa vie. Dieu agit en lui librement et avec puissance. C'est ça la signification de son nom. Sa femme s'appelle Noémie et son nom veut dire « ma gracieuse » ou « ma douceur ». En elle, il n'y a pas d'amertume, de souffrance, de rancune. Elle est douce. Sa vie est douce. On pourrait presque dire que c'est la douceur incarnée. C'est la signification de son nom. Ils habitent à Bethléem, qui veut dire, comme vous le savez très bien, « maison du pain ». On peut dire qu'ils habitent dans une boulangerie. C'est un endroit où les hommes sont rassasiés, où il n'y a pas de faim. Les gens ont le nécessaire pour vivre et être heureux. Ça, c'est le début de l'histoire. Dieu règne et partage sa vie avec douceur. Et dans leur maison, ne manque rien. Ben, c'est un vrai paradis, n'est-ce pas? Oui, ça a été ma première pensée, que Elimelech, c'est Dieu, Noémie, c'est l'Église, et Bethléem, c'est paradis. Mais cela ne dure pas très longtemps, comme au paradis. Nous lisons dans les premiers versets, « À l'époque où gouvernaient les juges ». Cette époque nous indique les temps historiques, la période où les juges gouvernent son peuple. Et nous avons connu ensemble quelques juges déjà. Mais en relisant plusieurs fois cette phrase, elle m'a semblé tellement vraie pour notre époque. Vous n'avez pas l'impression de vivre à l'époque où gouvernent les juges ? Moi, oui, sincèrement. On nous juge sans cesse. Les commerçants nous jugent pour deviner ce qu'il nous faut vendre. Les politiciens nous jugent pour adapter leur programme de telle façon qu'ils puissent gagner les élections. L'école juge notre savoir. Les administrations jugent notre situation administrative. Les médecins jugent notre état de santé, nos voisins, amis, notre famille, tout le monde nous juge. Et nous-mêmes, nous nous jugeons aussi. Ces livres parlent de notre époque. Ils parlent de mon histoire et de ton histoire. Et vous savez que là où il y a un jugement, il y a aussi une condamnation. Comme nous jugeons beaucoup, nous condamnons aussi. et nous nous sentons condamnés. Condamnés à une vie triste, sans goût, médiocre. Une vie avec des étiquettes sociales de ne pas être assez bien. Je vous invite de regarder votre pays où gouvernent les juges. À regarder votre vie. Comment tu juges? Comment les autres te jugent? Et comment tu te juges? À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Au temps du jugement vient la famine. Nous souffrons tous de cette famine. Et elle est inévitable dans les pays du jugement. La famine, c'est un état qui nous mène vers la mort si on ne change pas sa propre condition. Et cela est vrai pour nous. Est vrai pour notre famine extérieure, mais aussi spirituelle. Quelle est ma famine? J'ai plus faim et soif de quoi? Une famine de justice, liberté, de vérité, ou peut-être d'affection. Élimélec et Noémie, pour se sauver de la famine, quittent Bethléem, quittent paradis. Mais pour aller où? À Moab. Avant de voir la signification de Moab, qui est très très intéressante, je voudrais qu'on se pose la question pourquoi Élimélec et Noémie quittent Bethléem. Spontanément, on s'est dit parce qu'à Bethléem, il y avait la famine. Donc, pour se sauver, il quitte Bethléem. Oui, mais il y a des études qui nous disent que Élimélec et Noémie étaient très riches et qui avaient des greniers pleins de nourriture. Alors, pourquoi il quitte Bethléem? Par peur de devoir partager leurs biens avec les habitants de Bethléem et de ne pas avoir assez pour eux-mêmes. On peut dire qu'ils quittent Bethléem par égoïsme. Cela confirme la thèse qu'ils peuvent représenter Adam et Ève, qui pêchent aussi par orgueil. Et moi? Est-ce qu'il m'arrive de ne pas vouloir partager avec les autres? Élimélec et Noémie vont à Moab. Vous savez comment Moab a été fondé? Moab vient des descendants de Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Moab, c'est un pays terrible. Car Lot, après la destruction de Sodome et Gomorre, a eu deux enfants avec ses deux filles. De ces deux enfants prend les débuts deux nations, Moabite et Ammonite. Moab a ses origines dans l'inceste. Pour Israël, ces deux nations, Moabite et Ammonite, ce sont des nations maudites. Les Moabites et les Ammonites ne pourront jamais avoir de contact avec les Israélites. Les Israélites ne peuvent pas les côtoyer et surtout pas ne peuvent pas se marier avec les filles de Moab. Et Elimelech et Noémie choisissent Moab pour son refuge. C'est assez étonnant. Il s'auto-condamne à l'impurité, à la malédiction, à être coupé de ses racines pour toujours. Pourquoi? Peut-être parce qu'il estime qu'il ne mérite rien de mieux. Pourquoi je dis ça? Parce que Moab peut signifier encore une autre chose. Quand Lot fuit Sodome et Gomorre, l'ange du Seigneur à la sortie de la ville montre à Lot les montagnes proches de Sodome et de Gomorre. L'ange l'invite à y monter pour s'abriter, pour y trouver refuge et commencer une vie meilleure, nouvelle. Lot a bien regardé la montagne et a décidé de ne pas y aller. Pour Lot, la montagne était trop grande et la route trop fatigante. Donc Lot demande à l'ange de pouvoir habiter une petite ville dans la vallée. L'ange accepte et attend que Lot arrive dans cette ville pour détruire Sodome et Gomorre. C'est cela qui veut dire habiter à Moab. C'est préférer la petitesse et la facilité pour ne pas monter sur les montagnes. Lot savait que sur la montagne c'était mieux, plus sûr. Mais soit il ne se sent pas capable d'y monter, soit il n'avait pas envie. Il choisit Moab. Demandons-nous alors, quels sont mes désirs que je n'ai pas eu courage de réaliser? Et quel est mon Moab que j'ai choisi par facilité ou par le manque de confiance? Chacun a des choses qu'il n'a pas réalisées ou qu'il n'a même pas essayé de réaliser par la peur de ne pas réussir, ou par la paresse, ou par le découragement. Tous nous connaissons ces filtres intérieurs dans notre tête qui nous dit « Ne rêve même pas ça, tu réaliseras jamais, tu es trop pauvre, trop stupide, trop faible, ou je sais pas quoi encore. » Nous nous jugeons toujours trop ou pas assez. Et cela nous empêche d'accueillir l'amour de Dieu. Trouvons aujourd'hui nos montagnes, nos désirs non réalisés. Regardons-les et permettons-nous de les désirer. Dans le premier verset, nous avons aussi les fils d'Elimelech et Noémie. Leurs noms sont aussi intéressants. Malon et Kilion. Malon veut dire maladie et Kilion veut dire épuisement ou extermination. Voilà, les fils des pays de juges. Et les fruits de la famine. Et ces fruits-là, nous les portons aussi en nous. Nous sommes tous un peu malades, Malone, et un peu épuisés, Kilion. Pour supporter et survivre la maladie et l'épuisement, il n'y a qu'une seule consolation. Laquelle? C'est l'amour. C'est ce qu'ils font, Malone et Kilion. Ils cherchent amour. Ils prennent pour femmes deux Moabites, Orpha et Ruth. Nom d'Orpha veut dire les coups durs ou volte-face. Et le nom de Ruth veut dire compagne ou amie. Malone et Kilion cherchent amour, mais est-ce qu'ils le trouvent? Au verset 4, nous lisons « Malone et Kilion demeurèrent là une dizaine d'années et ils moururent à leur tour. » Le Père de l'Église interprète ces 10 ans comme 10 commandements. Malone et Kilion ont essayé de vivre, de réaliser les commandements. Vivre les commandements dans les pays maudits, avec leurs femmes moabites, c'est impossible. Impossible parce que nous croyons toujours de devoir accomplir ces 10 commandements de nous-mêmes. Mais les 10 commandements, ce sont les 10 promesses que Dieu veut réaliser en nos vies. Il veut juste que nous lui laissons faire en ouvrant notre cœur à son amour. Il y a au début du carême une très très belle prière qui est lu à la messe et qui me fait un peu rire aussi. Elle dit « Convertis-moi, mon Dieu, et je me convertirai. » C'est-à-dire, nous osons dire à Dieu « Bon, Dieu, si tu veux que je me convertisse, convertis-moi. Sinon, je n'arriverai pas. » C'est beau, c'est la sagesse de l'Église. C'est Dieu qui fait le plus grand boulot dans notre vie de foi. Mais le seul problème est que nous, comme Malone et Kilion, ne lui donnons pas la possibilité de faire son travail en nous. Et nous mourrons, comme Malone et Kilion. Nous avons vraiment un gros problème pour faire confiance à Dieu. Mais il y a 2 femmes qui comprennent la leçon. Après la mort d'Élimélec et de Malon et Kilion, Noémie décide de prendre le chemin de retour vers Bethléem, vers paradis, vers leur vraie identité signifiée par leur prénom. Et ses belles filles, Orpha et Ruth, décide de la suivre. Il n'est jamais trop tard pour prendre le chemin de retour vers Dieu. Orpha, à mi-chemin, décide de rentrer à Moab. Son cœur est partagé. Elle a du mal à imaginer une vie ailleurs, d'abandonner ses certitudes. Ruth, elle reste fidèle à Noémie. Ruth fait confiance à la douceur, car rappelons-nous que Noémie veut dire douceur. C'est tellement beau. Relisons cette belle parole de fidélité que Ruth adresse à Noémie. C'est au verset 16 et 17. Ruth dit: ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me traite ainsi, qu'il fasse pire encore, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Ne me force pas à t'abandonner, à m'éloigner de toi. Cette phrase est tellement belle et elle peut devenir aussi notre prière. C'est lui qui par le jugement, les souffrances, les découragements, veut nous éloigner de Dieu, c'est le diable. Les paroles de Ruth, nous pouvons les adresser à Dieu. Ne permets pas, Seigneur, que le mauvais m'efforce à t'abandonner, à m'éloigner de toi. Ne permets pas que les jugements m'empêchent de te rester fidèle. Ruth rentre à Bethléem, car au verset 14 nous lisons « Ruth restait attachée à ses pas, les pas de Noémie, les pas de la douceur. » On pourrait dire que Ruth ne cherche pas des signes extraordinaires, des miracles immédiats, car elle a décidé de changer sa vie. Non. Ruth s'attacha à la douceur. Dieu dans nos vies, il agit avec délicatesse et douceur. C'est à nous qu'il faut s'attacher à ses pas, savoir les guetter, reconnaître et y attacher notre âme. Attacher si fort que nous puissions dire à Dieu comme Ruth, où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Où tu mourras, je mourrai. Vraiment, je suis prête d'aller où Dieu il va, de m'arrêter où Dieu s'arrête et de mourir où Dieu meurt. Quelle foi admirable! Et c'est Ruth qui l'a dit. Une Moabite. C'est une femme qui ne connaît pas Dieu. Si ce n'est pas ce que Noémie lui a pu raconter. Je vous invite aujourd'hui à vous asseoir avec ces livres de Ruth et à regarder d'où vous venez, à regarder les Bethléem, les paradis, de regarder où vous vous trouvez, comment vous pouvez décrire votre Moab, et à regarder où vous voulez arriver. Seigneur Jésus, convertis-moi et je me convertirai. Mets dans mon cœur ce désir irrésistible du paradis. Je veux prendre la route de retour vers toi. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.